Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Finalement, on pourrait se dire que marcher par l'esprit, ça nous permet justement, en fait, du coup, de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais alors, qu'est-ce que ça nous permet d'accomplir? C'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous permet d'accomplir, finalement? Qu'est-ce que cette parole a pour but ce matin? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle ensemble de la patience de Dieu. Parce que pour mieux comprendre, finalement, du coup, tout son fonctionnement et comment est-ce que le Seigneur, du coup, est avec nous, nous aurons besoin, évidemment, du coup, de sonder les Écritures pour comprendre la patience de Dieu. Il nous est dit dans Exode 34, verset 6, que Dieu est un Dieu lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Cette lenteur à la colère et cette richesse en bonté et en fidélité, c'est pas juste une belle formule pour nous faire plaisir, pour que finalement, du coup, on puisse se le répéter de temps en temps comme une belle formule, quelque chose d'agréable. Mais on a des exemples. Un des exemples, c'est l'histoire d'Israël, ce peuple. Le peuple d'Israël, finalement, a été 70 ans en exil. 70 ans, on peut se dire, finalement, c'est dur quand même, 70 ans. 70 ans en exil, il est précisé, en plus du coup, que c'est un temps d'exil pour le repos de la terre. Parce que le peuple d'Israël ne respectait pas ce que Dieu avait demandé, un Shabbat annuel tous les 7 ans, où il ne devait pas travailler la terre, la laisser se reposer, la mettre en jachère. Si je fais le calcul brièvement, 70 fois 7, intéressant, donc près de 500 ans d'attente, de patience, où la désobéissance a continué, mais où Dieu était lent à la colère et riche en bonté. Un autre exemple, nous avons avec les nations, nous avons avec Canaan, tout particulièrement. On sait que lorsque Josué est entré en terre promise, et même lorsque du coup Moïse devait y rentrer plus tôt, mais que finalement du coup le peuple n'était pas prêt, c'était aussi comme un jugement pour Canaan. Ils pratiquaient l'iniquité, ils sacrifiaient les enfants, ils avaient des pratiques qui étaient odieuses devant le Seigneur, et même au temps d'Abraham, puisque Dieu parle à Abraham et lui dit que le temps n'est pas encore venu, parce que l'iniquité de ce peuple n'est pas encore arrivée à son terme. J'ai fait le calcul. Certains qui sont un peu précis, peut-être à la fin me diront « Non, tu as oublié un an par-ci, un an par-là. » Je suis arrivé à 686 ans. 686 ans, finalement, du coup, c'est le temps jusqu'à ce que Dieu dise « Ça suffit. » Lent à la colère et riche en bonté. Parfois, à titre personnel, j'ai le sentiment qu'à la moindre bêtise que je vais faire, au moindre péché, je vais me ramasser derrière la punition. Je vais être fracassé par la colère de Dieu. Parfois, on a comme une fausse doctrine qui est plus proche du karma que du cœur de Dieu. Le karma, c'est si je fais quelque chose de bon, alors quelque chose de bon m'arrivera bientôt. Si je fais quelque chose de mauvais, alors quelque chose de mauvais m'arrivera bientôt. C'est une copie un peu bizarre de la loi des semailles et des récoltes. Mais la bonté de Dieu est bien plus grande. Parce que sa patience est tellement, tellement au-delà de ce que nous pouvons voir et espérer. Combien l'histoire de l'Église aussi nous montre qu'en 2000 ans, elle aurait mérité un bon grand nombre de châtiments. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est patient et le Seigneur est fidèle. Il nous a aussi parlé que le Seigneur ne se repent pas de ses appels et de ses dons. Et ce verset-là parle notamment d'Israël, du peuple juif. Et nous savons que nous sommes dans un temps encore de grâce, où un voile est sur les yeux des juifs, afin que le plus grand nombre puisse rentrer dans la promesse. Et qu'un jour, leurs yeux s'ouvriront, et ils verront. Ça a déjà été le cas depuis 2000 ans, pour beaucoup de juifs, mais beaucoup encore sont à venir. Et nous prions encore pour que d'autres puissent ouvrir les yeux sur le Messie qui a été percé. Ensuite, j'aimerais du coup qu'on parle un peu plus de la bonté de Dieu. Parce que la patience nous amène à comprendre un peu plus sa bonté. S'il est riche en bonté, Dieu comme un bon père, il est riche en bonté de choses agréables, de choses qui nous font du bien, de choses finalement du coup qui réjouissent notre cœur. C'est une richesse de pouvoir finalement chaque jour se lever avec du soleil, même s'il est un peu caché, mais aussi de la pluie, car il est dit que, c'est même Jésus qui le dit précisément, que Dieu est un bon père, parce qu'il fait pleuvoir et il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. La bonté de Dieu est une bonté qui ne se limite pas aux gens uniquement qui l'aiment et qui le respectent. Mais nous allons voir juste après, du coup, pourquoi est-ce que parfois nous le percevons pas forcément comme de la bonté. Parce que sa bonté aussi, c'est de pouvoir nous faire grandir. Sa bonté, c'est finalement de nous permettre de grandir à travers des particularités, des moments de la vie qui sont parfois difficiles. Et je sais qu'en disant cela, c'est moi-même pour ma propre vie que je prêche, parce que c'est pas simple. Parfois nous rencontrons des difficultés et nous sommes bien embarrassés. Quelqu'un a dit un jour, quand vous demandez à Dieu la patience, il vous donne des situations difficiles à surmonter. Quand vous demandez à Dieu l'amour, il vous donne des personnes difficiles à aimer. C'est vrai que parfois nous prions, nous attendons de la part du Seigneur comme un miracle qui tombe du ciel. Comme si un matin j'allais me réveiller avec une bonne dose de patience. Ça y est, j'ai enfin la patience miraculeuse qui me vient du ciel. Je suis donc enfin extraordinairement doté de capacités. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne dans le plus secret de nos vies, dans le plus petit de nos quotidiens. Parce qu'il veut d'abord nous travailler là où nous sommes parfois tentés de bâcler. Tentés de dire « Oh, c'est pas si important. Non, Seigneur, mais donne-moi des choses plus importantes. Donne-moi de prêcher pour les nations. Donne-moi d'évangéliser la terre entière. » Commence déjà par toi-même. Commence par ta famille. Oui, mais ils comprennent rien. De toute façon, je sais très bien. Moi-même aussi, avec mes parents, c'était difficile. Alors, je peux comprendre qu'avec mes enfants, c'est aussi difficile. Commence là où je t'ai placé. Finalement, David a commencé à faire paître les brebis avec, finalement, ce que son père lui avait donné. Et notre encouragement n'est pas d'avoir une ambition démesurée. Nous pouvons voir des choses sur notre cœur que le Seigneur nous donne comme un appel, mais notre part, c'est de lui remettre. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie est entre les mains du Seigneur et parfois nous ne comprenons pas ce qu'il en fait. Aussi, lorsque nous traversons des moments difficiles, deux attitudes s'offrent à nous. L'humilité ou l'orgueil. Et je ne veux pas dramatiser en disant « Ah, ben, les orgueilleux, ce sont ceux finalement du coup qui ne mettent pas en pratique, qui sont… » L'orgueil est beaucoup plus subtil que ça. L'orgueil se cache dans énormément de nos actions, énormément de nos réactions. L'orgueil, finalement, c'est lorsque je m'oppose au travail de l'esprit. Et ça peut être parfois malgré moi, à travers des blessures qui ne sont pas guéries, à travers aussi des désirs de la chair. L'orgueil, c'est ce qui se cache lorsque finalement, du coup, je n'ai pas envie de me remettre en question. Lorsque finalement, je veux absolument avoir raison. Parce que même si j'ai raison, la façon dont j'ai de réagir m'amène à avoir tort. L'humilité, au contraire, c'est lorsque j'accueille la transformation, malgré la douleur. L'humilité aussi, parfois, c'est d'accepter aussi l'injustice. L'apôtre Paul nous dit, mais ne pouvez pas supporter entre vous quelque injustice. C'est dans les relations, finalement, du coup, les uns avec les autres que nous sommes évidemment travaillés. Et il y a un passage que j'aimerais aussi qu'on lise ensemble. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains. Ô homme, et je vais préciser aux femmes, il était dit de ne pas rajouter un iota dans la parole, mais quand il est dit ô homme, évidemment les femmes sont incluses. Quand il est parlé de l'épouse de Christ, évidemment les hommes sont inclus. Merci Seigneur. Ô homme, qui que tu sois, ah bon voilà, au moins c'est très clair, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer de vie. Comment est-ce que j'ai une autre traduction de longanimité? C'est la patience. Juste après, générosité. Intéressant. La bonté, la richesse de sa bonté. La richesse de sa bonté. Parce que la bonté de Dieu mène à la repentance. La bonté de Dieu mène à changer de vie. Et finalement, c'est ça tout l'enjeu. Finalement, dans nos propres vies, que l'on soit chrétien ou pas, c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Que je connaisse l'auteur de celui qui me permet de changer de vie, ou pas, c'est sa bonté qui me mène à changer de vie. Ce n'est pas moi par mes propres forces. On l'a même dit tout à l'heure, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Nous l'avons quand même choisi en retour, mais lui nous a choisi. Il y a une part très forte dans le fait que lui est à l'œuvre dans des domaines de nos vies où nous pensons avoir tout le contrôle. Mais c'est lui qui initie des choses merveilleuses. Marchez par l'esprit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La patience de Dieu, qui nous montre sa bonté, la bonté de Dieu, qui nous amène à changer de vie, tout ça nous parle d'une pédagogie particulière du Seigneur. Tout ça nous parle d'une pédagogie millimétrée, où il n'y a pas deux pères comme lui. Il n'y a pas deux sauveurs comme lui. Il n'y a pas deux seigneurs comme lui. Il n'y a pas deux créateurs comme lui. Dieu travaille en nous. Le travail de Dieu n'est pas un travail qui est extérieur. C'est d'abord, il nous transforme afin que, à l'extérieur, nous puissions du coup être une lumière. Mais pourquoi est-ce que Dieu travaille en nous? Ça, c'est une question, une fois que j'ai posé au Seigneur, je lui ai dit, mais c'est bien sympa, tu m'as sauvé, mais la vie est compliquée. Pourquoi on ne peut pas partir tout de suite? Finalement, au moins, on est tranquille. C'est notre rêve le plus cher, c'est d'être dans sa gloire. C'est d'être avec lui pour l'éternité. Même quand on lit l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais j'aimerais mieux être auprès de lui. À quoi ça sert finalement qu'on soit encore là? C'est une question que je voulais poser honnêtement. Je vous encourage à poser des questions honnêtes au Seigneur. Il attend de nous les questions que les enfants ont pour leurs parents. On a dit tout à l'heure de venir à lui comme des petits-enfants. Les questions les plus honnêtes, même si on a peut-être peur de choquer le Seigneur, je vous rassure tout de suite, vous ne le choquerez jamais. Il sait même ce que vous allez dire avant même que vous prononciez la moindre parole. N'hésitons pas à apporter nos questions les plus sincères au Seigneur. Si ces questions les plus sincères, nous ne les posons pas au Seigneur, peut-être que les réponses, c'est nous-mêmes qui allons les trouver par nous-mêmes. Est-ce que nous laissons le soin au Seigneur de nous apporter ses réponses? Un ami hier m'a énoncé des choses intéressantes. Il m'a dit, tu sais Pierre-Antoine, quand nous traversons des moments difficiles dans nos vies, c'est là où on ne peut plus se cacher devant Dieu. Parce que quand le train-train est présent, quand le quotidien, la routine est présente, finalement on peut se raconter une belle histoire. Ah, oh, je suis un sacré chrétien, je suis extraordinairement saint. Oh là, quelle vie exemplaire est-ce que je mène? Je suis vraiment un modèle. Oh, les gens vraiment devraient s'inspirer de moi. Peut-être que parfois, du coup, on se dit même, oh, les pauvres, ceux d'à côté, là, mes voisins. Ah, si seulement ils étaient comme moi. Nous sommes parfois travaillés par nos propres comportements. Parce que lorsqu'un moment difficile, du coup, arrive devant nous, on ne peut plus tromper, on ne peut plus tricher. On est face au Seigneur vrai. On est vrai. Et notre foi est mise à nu pour de vrai. Et nos réactions, finalement, du coup, en fait, parlent beaucoup plus que ce que nous pouvions penser, que ce que nous pouvions imaginer. Et nos réactions, parfois, du coup, manquent de foi. Notre foi, c'est notre confiance dans le Seigneur. Notre foi, ce n'est pas de réfléchir à des plans B, C, D sur ce que Dieu est en train de faire. Notre foi, c'est de lui dire, Seigneur, ta volonté, non pas la mienne. Notre foi, c'est de savoir que lui est un bon Père et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a choisi selon son dessein merveilleux. Nous ne sommes pas appelés par Dieu pour souffrir inutilement. Mais par la souffrance, nous apprenons, comme lui a appris l'obéissance. Lui qui était Dieu, qui s'est dépouillé afin de nous montrer la voie par excellence, cette voie par amour. Alors à quoi ça sert? Pourquoi être sur la terre? Pourquoi être encore présent ici? Pourquoi être encore là, dans un monde qui parfois du coup nous désespère? Pourquoi? Il y a un élément de réflexion déjà, c'est qu'est-ce que Christ est venu faire? Car Dieu a tant aimé le monde, en grec c'est le mot cosmos. Car Dieu a tant aimé toute sa création. C'est pas uniquement les gens, c'est toute sa création. C'est les institutions, c'est la terre, c'est tout ce qu'elle contient. Dieu a tout aimé. Donc déjà, son amour est encore plus grand que notre pensée. Et l'objectif du Seigneur, c'était de réconcilier tout en tous. Il nous est dit, dans la lettre aux Éphésiens, c'est de réconcilier en Christ ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tout réconcilier. Tout réconcilier. Et tout cela a été accompli à la croix. Et on pourrait se dire, ah ben c'est super, maintenant, ah ben non, il y a encore du boulot. Mais si tout est accompli, alors pourquoi est-ce que du coup, le Seigneur accepterait de travailler avec des gens aussi imparfaits que nous? Enfin, je sais pas pour vous, en tout cas, mais moi, je me sens bien imparfait. Si vous êtes parfait, ben, du coup, grand bien vous en fasse, hein. Je veux dire, j'aimerais vous discuter encore un peu après avec vous. Mais moi, je suis toujours étonné de voir avec quelle délicatesse, pédagogie et étonnement le Seigneur a de travailler avec nous, des personnes aussi imparfaites, aussi inconsistantes, aussi infidèles, aussi injustes. Même au sein du corps de Christ. Un lieu qui est censé être un lieu où justement on est en confiance, parce que l'amour règne. C'est un lieu où malgré tout, c'est difficile. C'est un lieu où justement parfois les attentes sont tellement élevées qu'on est très vite déçu. Et dans notre comportement, parfois, on vient se venger par notre ignorance, notre attitude. Je suis parfois repris par les gens du monde qui sont beaucoup plus sages que moi, dans bien des domaines. D'un point de vue relationnel aussi, parfois, ils sont beaucoup plus sages que moi. Alors pourquoi? Pourquoi sommes-nous encore là? Une des réponses nous est donnée dans Apocalypse 19, verset 7, où il nous est parlé que l'épouse s'est préparée. Donc si elle s'est préparée, ça veut dire que finalement, elle a pris du temps pour se préparer. Il est même dit aussi qu'elle est habillée d'un fin lin pour les noces. Et que ce fin lin, ce sont les œuvres des saints. Savons-nous seulement que lorsque nous obéissons au Seigneur, nous participons à la confection de l'habit de l'épouse. Ça veut dire que lorsque du coup je suis dans l'obéissance auprès du Seigneur, mes actions d'obéissance participent à la confection d'un habit qui n'est pas que le mien, mais qui est celle, qui est celui du corps tout entier, de la robe du corps de Christ tout entier. Finalement, du coup, mon obéissance, elle me dépasse un peu. Finalement, du coup, j'ai un bon intérêt à obéir, alors. J'ai un bon intérêt, du coup, à suivre ce que le Seigneur veut. J'ai un bon intérêt, finalement, du coup, à écouter la voix du Seigneur et à marcher dans l'obéissance. Christ s'est donné pour elle. Christ s'est donné pour l'épouse. Christ s'est donné pour nous. C'est quand même extraordinaire, on peut voir le plan du Père. Le plan du Père était de donner une épouse à son fils. Pour cela, il s'est dit, avec le Père et l'Esprit, ils se sont dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image, créons-le, homme et femme. Et pour cette épouse, alors que finalement, du coup, elle n'était pas encore pleinement formée, elle était encore dans la pensée, Christ a dit, le Fils a dit, j'irai, je me donnerai pour elle. Je me donnerai pour elle afin, déjà de la racheter, afin que le péché qui est sur elle ne lui soit pas imputé, afin de la réconcilier avec toi, Père. Et afin aussi que je puisse habiter en elle par mon esprit, et que finalement, elle soit ma ressemblance, comme c'était prévu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, mais nous sommes aussi créés dans une nouvelle identité, nouvelle création, à la ressemblance de Christ. Et il est même précisé, dans Colossiens 3:10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ça nous parle d'un processus. Parce que le but, c'est de nous permettre de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme et de femme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous est dit dans la lettre aux Éphésiens. Finalement, du coup, on voit que ça va plus loin que notre petite vie, mais que notre petite vie a du sens pour l'ensemble. Notre petite vie a du sens pour l'ensemble du corps. Quels sont les moyens ? Parlons des moyens. Le Seigneur, lui, est un chef de projet hors pair. On peut le voir à la création, assez étonnamment. On peut le voir aussi, du coup, à la façon dont juste nous, on a été créés, juste sur la partie, du coup, cerveau, les yeux. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu pour faire un truc pareil. Quelle est la méthode que le Seigneur a employée pour justement préparer son épouse et nous permettre aussi, du coup, de parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Premier moyen, sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sa parole est là pour nous guider. Sa parole est là pour nous conseiller. Sa parole est aussi comme un fil à plomb. Si j'ai un doute, si je pense peut-être être sur une bonne route, j'ai juste à ouvrir, à demander le Seigneur qu'il me montre si je marche dans la vérité. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Par sa parole, je peux rapidement voir si je marche légèrement à côté. Je peux rapidement voir si je dévie. Il nous a aussi donné son esprit. Son esprit n'est pas donné avec mesure, il l'a donné pleinement. Il l'a donné pour que l'esprit travaille pleinement en nous. Pas uniquement un jour par semaine, pas uniquement une heure par jour, ou deux, pour ceux qui sont très spirituels. Il nous est pas donné l'esprit juste pour des petits temps un peu à part. L'esprit nous est donné pour tout le temps. Même pour les choses les plus pénibles. Je ne sais pas qui aime faire la vaisselle, je ne sais pas qui aime faire les corvées, je ne sais pas qui aime changer les couches, je ne sais pas qui aime tout ça, nettoyer les toilettes, je ne sais pas qui aime tout ça. Peut-être qu'il y en a, et en fait, béni soit-elle. Mais au fond, même dans les choses les plus basiques, l'esprit nous est donné. Ça peut être un peu choquant, mais on peut être très spirituel en balayant. On peut être très spirituel en donnant à manger. On peut être très spirituel en faisant son travail d'une manière hautement digne. Le spirituel n'est pas uniquement donné à celles et ceux qui sont derrière le micro pour prêcher. Le spirituel est donné même à celles et ceux qui n'ont pas de grandes capacités cognitives. Le Saint-Esprit est donné pleinement à chacun. Si nous croyons, nous savons que le Saint-Esprit nous est donné. Et il y a un écho en nous. Cet écho, c'est le Saint-Esprit qui crie « Abba Père », qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une grâce particulière sur chacun d'entre nous. Cette grâce nous est donnée pour que nous marchions fidèlement, pour que nous marchions accrochés à lui, ancrés en lui, lui en nous. Nous ne sommes pas dissociés du Dieu de toute éternité, mais il s'est fait plus proche. Quelqu'un disait un jour, quand tu prends ta main et tu la regardes, tu peux la mettre au plus près jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Dieu est plus près de ta main. Dieu est plus près de toi que ta main est proche de toi. Dieu a pris un risque extraordinaire de venir habiter en nous, nous être aussi imparfaits. Troisième moyen, et pas des moindres, même si ceux d'avant étaient vraiment pas des moindres non plus, mais celui-ci est très important, c'est le corps de Christ. Je ne suis pas seul. Dans le corps de Christ, il y a des fonctions de vie que le Seigneur a placées, à donner. Ce sont ces fonctions de vie qui nous permettent de parvenir à l'unité de la foi. Ce sont ces fonctions de vie qui nous permettent de parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Afin de servir, afin de manifester qui il est, afin d'être des témoins. Mais plus que des témoins, les témoins sont ceux qui témoignent de quelque chose. Mais nous sommes appelés à témoigner par nos actions. Si notre amour n'est qu'un amour prêché, un amour parlé, c'est bien triste. Mesdames, pour celles qui sont mariées, si votre mari uniquement vous dit « je t'aime », mais ne vous le montre pas, par un peu de tendresse, ou par des actions, par des paroles aussi du coup d'encouragement, par une manière aussi de vous honorer, ces paroles sont vaines, elles sont creuses. De même aussi, hein, mesdames, pour vos maris, n'hésitez pas, hein, je pense que... En tant qu'hommes, nous avons bien aussi besoin du coup de l'amour de nos femmes. L'amour qui est donné est un amour qui doit se voir. L'amour qui est donné est un amour qui doit réellement se voir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Finalement, quel est le fruit qui sort de tout ça? Ce fruit, c'est donc déjà l'amour, la joie, la paix. C'est la patience, la bonté, la bienveillance. C'est la foi, c'est l'humilité, c'est la maîtrise de soi. Ce fruit qui sort nous rappelle le caractère de Dieu. Nous montre le caractère de Christ. Ce fruit de l'esprit, c'est un fruit qui n'est pas uniquement pour nous, mais c'est un fruit qui est bon à manger pour les autres. Nous sommes donnés pour les autres. Ce que tu as reçu, pourquoi est-ce que tu pourrais t'en enorgueillir, ce que j'ai reçu, pourquoi est-ce que je pourrais m'en enorgueillir? Finalement, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais ce que j'ai reçu n'est pas uniquement pour mon plaisir personnel, mais c'est pour servir l'autre. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon, certains pourraient dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans la bagarre, ça marche aussi. Ce n'est pas le but. Comprenez-moi bien. L'amour est un amour qui doit se voir, qui doit être palpable par des actions. Au final, le Seigneur est patient. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous donne sa parole. Le Seigneur nous donne son esprit. Le Seigneur nous donne des frères et sœurs avec qui on va se frotter, avec qui ça va être peut-être difficile. Et nous rencontrerons aussi des épreuves indépendantes de notre volonté. Avec tout ça, comment réagissons-nous? Que donnons-nous? Que donnons-nous pour grandir? Est-ce que notre cœur est à l'humilité? À l'accueil du travail de l'Esprit en nous? Est-ce que nous acceptons la remise en question? Ou est-ce qu'elle nous pique trop dans notre ego? Est-ce que nous sommes trop sûrs de nous? Trop orgueilleux? J'ai remarqué une chose, c'est que je suis moins enclin à changer aujourd'hui que je ne pouvais l'être peut-être quand j'avais 7-8 ans. Il se trouve aussi que j'étais plus enclin à changer quand le Seigneur a changé ma vie, presque du jour au lendemain. Mais à mesure que j'avance, parfois je me retrouve à être un peu têtu, à discuter un peu avec Dieu, pour lui prouver que j'ai raison, parce que quelque part il faut bien qu'il comprenne aussi, hein, c'est vrai que j'ai aussi mon avis, c'est important que je le dise. Je me rends bien vite compte que finalement, en fait, mon avis ne vaut pas grand-chose et que seule sa volonté et son avis comptent. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de vous. L'important, c'est ce que Dieu dit de vous. Peut-être que parfois, à travers les gens aussi, il peut y avoir des vérités. Mais si j'existe à travers ce que les gens pensent, ma gloire est donc à travers les autres. Mais si je me confie dans celui finalement qui m'a créé, finalement ma gloire n'est pas du tout dans le regard des autres, ni dans l'accomplissement personnel. Ma joie et ma gloire, c'est que mon nom est inscrit dans les cieux. Je peux donc me glorifier que d'une seule chose, c'est d'appartenir au Christ. Au final, notre temps sur la terre est court. Et c'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce. C'est une manière aussi pour nous de limiter le péché. C'est une manière aussi pour nous, du coup, de comprendre que finalement, nous ne sommes pas grand-chose, mais que ce pas grand-chose, le Seigneur l'utilise pour des très grandes choses. Dieu n'en a pas fini avec chacun d'entre nous. J'ai noté des choses dans les chants, moi, qui m'ont beaucoup parlé. Je suis enfant de Dieu, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu nous amènes à obéir de tout cœur et à demeurer en toi, Jésus. C'est le cœur même de notre vie avec le Seigneur. Cette marche par l'Esprit, cette marche selon l'Esprit, c'est une marche qui s'ouvre à chacun d'entre nous. Elle n'est pas terminée tant que nous avons du souffle dans nos poumons, tant que notre cœur bat. Dieu n'a pas fini avec nous pour nous apprendre, pour nous permettre d'aller plus loin. Et Jésus nous dit, à chacun d'entre nous, dans nos jardins secrets, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Tout ce que je souhaite, c'est de venir avec mon Père et souper avec toi, déjeuner avec toi. Là où finalement tu gardes encore un endroit secret. Là peut-être où tu as encore honte. Là peut-être où tu te dis, non mais, à quoi bon maintenant? Parfois c'est ce que je me dis, moi à 36 ans, je me dis peut-être, à quoi bon? Je changerai peut-être jamais sur ce point-là, à quoi bon? Dans cet endroit-là, dans ce jardin secret, le Seigneur veut entrer. Parfois, nous pensons qu'il est Seigneur de toute notre vie, mais le Saint-Esprit nous montre qu'il y a encore des endroits où il n'est pas roi. Marcher avec l'Esprit, marcher selon l'Esprit, c'est être sensible à sa voix, c'est être attentif. Lorsque sur la route, finalement, je suis encore embarqué dans mes propres dysfonctionnements. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Un pasteur a dit un jour, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il est pas le Seigneur du tout. Cette phrase, finalement, du coup, nous titille, vient nous chercher dans notre propre cœur, dans notre propre façon de voir aussi notre relation avec le Seigneur. Mais il n'en a pas fini avec nous. Il est bon, riche en bonté. Il est patient. Sa patience est telle que lui va toujours chercher à nous ramener à lui. Il sera toujours là pour toquer, jour après jour. Une chose aussi intéressante, c'est que le Seigneur ne nous laisse pas tranquilles. Parfois, on aimerait bien qu'il nous laisse un peu tranquille. Moi, je prie le Seigneur qu'il ne vous laisse jamais tranquille. La pire chose qu'il puisse vous faire, qu'il puisse nous faire, c'est de nous laisser tranquille. Lorsqu'il dit, je ne sais plus exactement dans la parole, mais il est dit, en fait, du coup, celui-là, laisse-le. C'est plus dramatique qu'on ne le pense. Parfois, il nous laisse aller au bout de nos erreurs, pour que finalement, du coup, on redécouvre qui il est, et là où nous sommes coincés. Quelle est ma part? Quelle est ma part? Au final, ce n'est pas pour nous charger que le Seigneur nous parle ce matin. C'est pour nous dire, il y a toujours un espoir, mon fils, ma fille. Aujourd'hui, il y a encore un espoir. Évidemment que ta relation est bien en dessous, bien en deçà de ce que tu aimerais. Peut-être même n'es-tu pas le disciple que les gens pensent que tu es. Ce n'est pas grave. Le Seigneur sait pertinemment là où nous en sommes. Et à travers ce que nous vivons, il nous permet finalement, du coup, de voir la vérité, la réalité, là où nous en sommes pour de vrai. Le Seigneur ne travaille jamais avec nos fausses pensées, nos imaginations sur nous-mêmes, nos fausses conceptions. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est sympa, hein, pour écrire des poèmes, pour nous faire plaisir. Mais le Seigneur, lui, ne travaille que dans l'éternel maintenant, que dans le vrai, dans la réalité. Il vient nous chercher afin que nous puissions découvrir qui nous sommes, où nous en sommes, et que notre cœur soit « Seigneur, prends pitié de moi, augmente ma foi, fais-moi grandir. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. » Régulièrement, je me rends compte que je fais des choses sans le Seigneur, en indépendance totale. Et dans mon travail, par exemple, au sein du concours biblique, je sais que je ne peux pas me le permettre. Je sais que rapidement, en plus c'est une prière que je lui ai faite au Seigneur, je lui ai dit, lorsque du coup je commence à faire par moi-même, Seigneur, je t'en prie, arrête-moi, au plus tôt. Je ne veux pas donner aux enfants une nourriture qui ne vienne pas de toi. Le Seigneur nous interpelle régulièrement, tout en douceur. Il y a une très grande tendresse dans notre Père du Ciel. Parfois, si on est un peu têtu, comme moi, il nous reprend avec douceur, mais aussi une bonne correction quand même, pour nous réveiller. Parce qu'on a besoin d'être réveillé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Notre part est d'ouvrir cette porte. On imagine qu'il faut tout balayer, tout mettre bien à l'intérieur avant d'ouvrir la porte. Parfois, on a oublié en tant que chrétien que lorsque le Seigneur est arrivé subitement dans notre vie, il y avait beaucoup à nettoyer. Finalement, du coup, on imaginerait que dans les derniers recoins qui nous restent, sinon on n'en reste que 2-3, on est déjà pas mal, hein, que nous pouvons nous nettoyer par nous-mêmes. Notre part est d'ouvrir la porte de nos cœurs, la porte de ces endroits cachés, secrets, que parfois peut-être même notre conjoint ou conjointe ne connaît même pas. Dieu connaît le fond de nos cœurs, mais gentleman qu'il est, il toque à la porte. Quelqu'un disait aussi que c'est une porte particulière, c'est une porte qui n'a une poignée que d'un côté, à l'intérieur. Et tout puissant qu'il est, le Seigneur, il pourrait enfoncer la porte, il attend simplement que nous l'ouvrions. Ma part est donc de lui ouvrir la porte, première part. Deuxième, toujours de ma part, c'est de laisser l'Esprit travailler. De laisser l'Esprit travailler en moi, même si ça me fait souffrir. Finalement, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Nous pensons souvent que nous sommes à l'initiative de beaucoup de choses. Nous pensons souvent que nous sommes très utiles dans les choses que nous avons à faire aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, pour tout ce que nous construisons. Mais c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et un autre verset aussi, c'est dans Ésaïe, il nous est dit qu'il nous donne la paix, car tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Mais quel repos extraordinaire! Quel repos pour nos âmes! Quel repos de pouvoir travailler en collaboration, étroitement en partenariat avec la Trinité, de marcher unis avec le Seigneur. Quel cadeau extraordinaire! Et encore une fois, nous avons l'assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous terminerons du coup par ces versets de Galates 5, 25 et 26, qui nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Marchons selon l'Esprit. La pédagogie de Dieu, c'est que finalement, il y a toujours, toujours, toujours moyen de se repentir. N'attendons pas après-demain. Si aujourd'hui notre Seigneur nous parle, nous pouvons donc nous repentir. Car Dieu est bon, Dieu est juste, pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Et sa bonté est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.